Il est 6 heures.
Le Secours populaire français est une association française de solidarité qui intervient sur le plan matériel, médical, moral et juridique auprès des personnes victimes de l'injustice sociale, des calamités naturelles, de la misère, de la faim, des catastrophes climatiques. En 2023, le Secours populaire français compte 98 fédérations, 662 comités locaux et 90 000 bénévoles. Vendredi 16 mai, plus de 80 femmes engagées au sein du Secours populaire de Roubaix ont participé à une journée exceptionnelle organisée dans le cadre des 80 ans de la création du Secours populaire français. Elles ont échangé autour de leurs engagements au sein du comité de Roubaix et ont pris part à plusieurs ateliers dans une ambiance conviviale et solidaire. Rencontre avec Nora, directrice adjointe du Secours populaire de Roubaix.
Alors aujourd'hui, nous avons un événement qui est exceptionnel. Alors autour des 80 ans du Secours populaire, nous avons décidé de mettre à l'honneur 80 femmes qui sont présentes aujourd'hui autour de quelques ateliers. Après ces ateliers, je vais vous énumérer un peu les ateliers. Donc il y a la mise en beauté, nous avons Cœur de lecteur qui est porté par aussi une bénévole. Mise en beauté, confiance en soi, la sophrologie et massage, voilà, autour de ces ateliers. Donc comme ça, les femmes peuvent aussi être à l'honneur et surtout les bénévoles qui sont très investis au niveau de l'association, les mettre à l'honneur. Au niveau de l'association, on leur montre qu'elles sont importantes pour nous.
Comment est-ce que vous avez construit cette action ?
Tout simplement autour des 80 ans. Donc on a décidé de mettre ces femmes à l'honneur.
Ce projet est venu d'une concertation avec les bénévoles de l'association ?
Ça s'est fait naturellement avec les bénévoles et puis la direction tout simplement, qui était complètement d'accord pour mettre à l'honneur toutes ces femmes qui s'investissent au sein du Secours populaire.
Et l'objectif, au-delà de cette mise à l'honneur, est-ce que c'est aussi, une reconnaissance du travail qui est fait par ces bénévoles ?
Bien évidemment, c'est surtout une reconnaissance qui est faite par ces bénévoles pour les mettre à l'honneur. Et surtout, aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, si on n'avait pas ces bénévoles, on ne pourrait pratiquement rien faire. Donc c'est aussi un grand merci pour tous ces bénévoles qui sont investis au niveau de l'association. Et comment les remercier, créer un événement aujourd'hui pour leur dire merci, surtout une journée pour soi. Une journée pour elle, pour profiter d'une séance de bien-être, profiter d'une séance de flamenco et complètement oublier les soucis de la journée et du quotidien pour pouvoir profiter de cette journée.
Si on a besoin d'informations sur votre association, où est-ce qu'on peut trouver ça ?
Tout simplement sur Facebook, Secours Populaire Comité de Roubaix, et on a aussi LinkedIn, exactement, donc Instagram, et aussi on a un site internet, Secours Populaire Comité de Roubaix.
Baya, Zora et Josiane, bénévoles au Secours Populaire de Roubaix. En quoi consiste votre travail ?
C'est à trier le linge qu'on nous ramène, c'est des dons qu'on nous ramène et ça sert à faire plaisir aux enfants, aux gens, des gens qui sont dans la nécessité et c'est vraiment magnifique.
Ça consiste en deux temps en fait. Un premier temps, on offre toute une panoplie de vêtements de qualité parce qu'on les a tous triés auprès des familles qui ne peuvent pas s'habiller dans les magasins traditionnels, qui n'ont pas les moyens de renouveler la garde-robe des enfants, etc., etc. Donc ils peuvent venir chez nous pour une petite participation minime. Et cette participation d'ailleurs profite à l'international dans les projets qui sont mis en place par le Secours Populaire pour aider certaines populations qui manquent par exemple d'école, d'internat, etc., etc. Et le deuxième temps, ce sont des dons, des trousseaux complets que l'on propose à des familles qui ont tout perdu, par exemple dans un incendie, ou qui sont tellement dans un besoin exceptionnel parce qu'ils viennent par exemple d'arriver en France et qu'ils n'ont absolument rien à se mettre, on leur fait des dons entièrement gratuits.
Qu'est-ce que vous pensez de la journée qui est organisée aujourd'hui ?
Alors, je trouve que c'est quelque chose qui est festif, qui est agréable et qui rejoint beaucoup le droit des femmes, la liberté de s'occuper de soi. Et je trouve que c'est exceptionnel qu'une association mette ça sur pied.
Et qu'est-ce que vous pensez de cette reconnaissance et de cette mise en valeur des femmes ?
Ben, je trouve qu'il est temps, qu'elle est légitime. Et par exemple, je trouve que la culture, parce qu'il y a eu aussi des actions culture au Secours populaire, c'est très très important par rapport à nos bénéficiaires qui sont dans une situation où c'est d'abord la base qui est obligatoire, l'alimentation, l'habillement, etc. La culture, c'est presque un luxe. Et je trouve que le fait de mettre des ateliers de culture en place, c'est vraiment le plus qui peut apporter des ouvertures aux familles.
Tous les mercredis, on vient faire à manger pour les bénévoles et ici au Secours populaire. Et je suis amenée aussi à d'autres tâches comme soit la récolte alimentaire ou soit aider à la braderie ou pas mal de choses. J'ai pu faire pas mal de choses ici.
Mais ça demande une sacrée organisation.
Oui, oui, mais après c'est organisé ici, donc ça va.
Qu'est-ce que vous pensez des activités qui ont lieu aujourd'hui ?
Eh bien, ça fait plaisir. Voilà, j'ai pu faire une mise en beauté. Là, maintenant, j'étais dans un cours de flamenco. Donc, c'est très bien. On se fait plaisir aujourd'hui et on est dans toute la détente aujourd'hui. Donc, ça fait plaisir. Il y a le soleil avec nous en plus.
Ce qui permet de vous rebooster.
Mais carrément, carrément. Ça fait plaisir de prendre une journée rien que pour nous. Voilà, pas de bénévolat, pas d'enfants, pas de travail, pas de chichi. C'est que pour nous aujourd'hui. Ça fait du bien.
Taos, retraité de la Redoute, et Nassera, bénévole au Secours populaire de Roubaix. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites au Secours populaire ?
Je fais du bénévolat dans une épicerie solidaire qui se trouve à Waterloo. J'aide dans le rangement, la réception, l'accueil des gens.
Et comment est-ce que vous avez connu le Secours populaire ?
Je l'ai connu par des collègues qui sont déjà là-bas et par un petit peu la publicité parce que j'ai toujours fait du bénévolat moi, de toute façon, même dans mon entreprise il y avait une association qui existe depuis l'Eurette et j'ai toujours été volontaire, c'est un truc que j'aime bien.
Et alors comment ça se passe dans l'épicerie, vous aimez bien ce que vous faites?
Oui, moi j'adore ce que je fais parce que surtout les contacts. Moi j'aime bien les contacts humains.
Et ça vous permet de rencontrer beaucoup de monde, c'est vrai.
Voilà.
Et dans l'organisation, est-ce que vous avez appris à gérer cette épicerie ?
Tout à fait. On apprend tous les jours hein, parce que c'est avec les événements et tout ça. Et on apprend beaucoup de choses. Déjà, aborder les gens, les rangements, la réception, tout ça c'est quand même un travail. Il faut bien le faire pour que les gens soient satisfaits du travail. Quand ils viennent chez nous, ils sont satisfaits. On a envie de satisfaire les gens.
Mais c'est vrai que l'accueil est très important. Parce que les personnes que vous avez en face de vous, c'est souvent des gens qui ont du mal à faire le premier pas.
Tout à fait. Il y a des gens qui sont plus faciles à aborder. Il y a des gens, il faut quand même avoir un petit peu de diplomatie parce que c'est des gens qui ont des parcours très difficiles. Donc ils osent pas. Donc on est là à leur expliquer. Il faut pas avoir peur. Il faut demander. On est avec eux. Donc ils se détendent un petit peu.
Qu'est-ce que vous pensez de l'action qui est menée aujourd'hui pour les bénévoles du Secours populaire?
Moi, je pense qu'ils reconnaissent quand même notre boulot. Nous, c'est ce qu'on veut, c'est de la reconnaissance. Mais on est engagé. Moi, je suis engagée à 100%. Normalement, je me suis inscrite pour travailler la matinée. Mais comme j'ai vu qu'il y avait du travail, c'est moi-même qui me suis imposée ce bénévolat. Et je reste avec eux toute la journée. Il faut que le travail soit fini. Parce que il faut aimer. Il faut aimer le bénévolat pour le faire. Parce qu'il y a tout ça, mais on prend comme on travaille. On le prend sur nous. Et on continue.
En quoi consiste votre bénévolat ?
À cuisiner une fois par semaine pour les bénévoles, pour les salariés, pour certaines personnes qui viennent. On leur fait des repas, comme on dit, la bonne franquette, avec ce qu'on a. Et ils sont contents et c'est l'essentiel de faire plaisir tout le monde.
Qu'est-ce que vous pensez de la journée qui est organisée aujourd'hui pour les bénévoles ?
Franchement, c'est une bonne chose, une belle journée, regardez, ensoleillée, dans la joie et dans la bonne humeur, on est tous là, et avec des différentes activités autour de nous. Franchement, c'est magnifique, c'est une bonne idée.
Nous étions à la journée exceptionnelle organisée par le Secours populaire de Roubaix. Reportage réalisé par Christian Lazaoui pour Radio Pastel.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Et je vous écoute, moi, Complice Lille.
Ah oui, c'est vrai.
Ah oui, 106.6. Je l'ai même à mon travail. Il y a des gens qui apprécient. C'est bon, tu vois. Les choix de musique, les émissions qui passent. Mais mon patron me dit non, il ne faut pas mettre ce genre de radio-là.
Radio Campus, toi-même, tu sais.
Mes amis qui m'ont quitté, je sais qu'aujourd'hui ils s'empiffrent au grand banquet des souvenirs. Mais en partant, je vais crier aux hommes démons qui me saoulent, des vérités qui font rugir
et dans le sable j'irai me coucher, et puis mourir loin de la foule. Ma liberté est comme l'eau, qui d'autre qu'elle pourrait le mieux me nettoyer, laver ma peau et faire encore briller mes yeux.
I know.
entretien avec Séverine Robert Brochard, présidente, et Julien Surfin, trésorier de l'association L'Art, Toi et Moi. Avec eux, on explore la programmation de la deuxième édition du festival Armania. Festival médiéval et fantastique organisé par l'association du vendredi 18 au dimanche 20 juillet à Anzin-Saint-Aubin, une commune limitrophe d'Arras.
Le festival Armania est un festival médiéval fantastique basé sur Anzin-Saint-Aubin qui comporte toutes sortes de créatures qui vont de l'humain cracheur de feu aux vikings en passant par les elfes. Sans oublier les humains, en continuant par les trolls et en finissant par les nains. Ce sera pour tout type de personnes. C'est une ambiance chaleureuse et familiale, ouverte donc du 18 au 20 juillet, avec des concerts ou spectacles le soir, et la journée, marché médiéval avec animation, bien entendu.
L'Art, Toi et Moi, une association qui a 2 ans maintenant, c'est ça à peu près?
Quasiment, hein, ouais, quasiment. Ouais, tout à fait. Elle a vu le jour le 24 septembre 2023. Ouais.
Alors, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce qu'on fait dans l'association?
L'idée, c'est de pouvoir envoyer du rêve, donner de l'émerveillement à l'esprit, pouvoir permettre de déconnecter du quotidien. Concrètement, on va parler de fées, d'elfes, de trolls, de vikings, de chamans, mais aussi de chevaliers, d'adoubements, de périodes médiévales. Et cette année, la nouveauté, on a du viking.
Alors cette année, c'est décalé. Donc c'est plus novembre, c'est juillet. Il va faire un petit peu plus chaud. Et c'est toujours à Anzin-Saint-Aubin.
On change de lieu. Là, on n'est plus en intérieur. On passe en extérieur. Et là, on part sur une surface de 10 000 mètres carrés. Étang de pêche, donc c'est l'étang communal dans un Saint-Aubin, avec un étang, avec la scarpe qui longe l'espace. C'est un terrain qui est magnifique, il est arboré, il est super bien entretenu. Et pour le coup, on va faire monter la température cet été.
Avec un programme qui est encore très riche, j'ai vu un escape game, des démonstrations de combat, art du feu encore, marché médiéval. On va en parler tout de suite ensemble. Mm-hmm. Des concerts, des danses... Plein de choses en fait.
Oui.
Et j'ai vu aussi que vous faisiez des petits teasers vidéo. Je crois d'ailleurs que c'est Julien, tu es dedans, il me semble, pour le teaser
dedans.
De l'escape game.
J'apparais dedans et j'apparais même sur l'affiche.
Alors vous m'en parlez un petit peu de cet escape game?
Ça va être composé en 4 salles. Salle des vikings, salle des chamans, salle des elfes et salle des trolls. Les aventuriers et futures aventurières vont devoir traverser moult épreuves pour récolter des indices, etc., etc.
Pour les personnes qui sont venues voir la légende de l'année dernière, donc le spectacle, qui sera rejoué cette année, le vendredi et le dimanche, on termine le spectacle avec une menace. Je ne vais pas dévoiler puisque le spectacle est à nouveau joué cette année. On a des personnages de ce spectacle qui doivent se faire la malle, qui doivent partir vers des terres gelées. Et donc, arriver vers les terres du Nord. Donc, pour le coup, est-ce que nos terres du Nord, donc à savoir les vikings, les trolls, les chamans et les elfes, est-ce qu'ils vont accepter l'arrivée de ces personnages sur le terrain? Rien n'est moins sûr. Seuls nos visiteurs pourront enfin dire s'ils acceptent ou pas leur venue. Est-ce qu'ils vont réussir ou pas leur mission? À eux de jouer.
Également au programme aussi de l'art du feu, toujours avec votre ami Firewolf.
Firewolf, donc Timothée, qui est un homme au grand cœur, qui est vraiment dans le partage, dans la bienveillance. Alors, il va rigoler s'il entend ça, mais qui fait monter la température. Voilà, là pour le coup, c'est quelqu'un qui va jouer avec le public, qui va vraiment aller titiller là où on ne l'attend pas, en fait, forcément. Et puis ça surprend.
3 jours de festivités aussi, donc un programme encore plus chargé. Alors un point peut-être, une parade aussi avec un spectacle de clôture pyrotechnique.
Oui, effectivement, donc du coup cette parade représente la transition douce entre du coup la légende de la 16e lune et la légende de la 19e lune.
Alors du coup c'est animé par Arras Impro, c'est ça?
Alors tout non, Arras Impro vont intervenir pour de la déambulation. Ils vont également pouvoir faire de l'improvisation et puis ils vont pouvoir aussi nous préparer une scène à la Kaamelott. Et oui, période médiévale, forcément on retrouve du Kaamelott.
N'oubliez pas, le gras c'est la vie.
C'est pas faux.
Franchement, on a vraiment une très très belle programmation. Pour rappel, on a une entrée à 3 euros. Même si on part pas en vacances, j'ai envie de dire, là pour le coup, sur Armania, on va pouvoir vraiment s'éloigner du quotidien. C'est vraiment l'objectif, prendre plaisir, rencontrer des créatures qui surprennent forcément, et puis oser des choses.
Alors Julien, il y a des démonstrations de combat, mais il y a aussi la version initiation pour les personnes qui voudraient essayer.
Oui, c'est animé par l'association d'escrime d'Arras. C'est
le cercle d'escrime d'Arras.
Le cercle d'escrime d'Arras, merci de m'avoir corrigé. Catégorie médiévale.
AMHE.
AMHE, voilà, le nom va aller manger.
En fait, AMHE, c'est l'art martial historique européen. Donc ils vont pouvoir faire la démonstration du combat, effectivement. Et Julien, oui. Je te repasse la main.
Ils ont aussi une partie initiation de combat et une autre partie sur le marché où ils vont présenter un peu leur association, ce qu'ils font, etc.
Également un concert, je l'ai dit juste avant. Donc
oui.
Tu veux m'en parler un petit peu ?
Effectivement, donc concert d'un groupe qui s'appelle Castel Rock, qui fait de la musique médiévale et qui me semble est basé sur l'île de Souvenirs.
Oui,
c'est
tout à fait.
C'est ça, si je dis pas de bêtises.
Castel Rock, c'est en fait trois joyeux lurons qui sont passionnés de musique traditionnelle irlandaise. Musique médiévale, c'est... Ils aiment bien en fait faire du cassage de musique rock assaisonnée d'histoires rocambolesques, loufoques. Ils vont nous parler de princesses mangeuses de dragons, de diables aussi sournois. Donc en fait, il y aura des aventures amoureuses, stupéfiantes. En fait, quand on mélange tout ça, bon, on a leur composition qui a une consonance glamour, rock'n'roll, médiéval. On s'approche vraiment de ce qu'on peut attendre sur un univers med et puis sur les rats des mines de la Moria également.
Nous sommes toujours en compagnie de Séverine Robert Brochard, présidente, et Julien Surfin, trésorier de l'association L'Art, Toi et Moi. L'association organise la deuxième édition d'un festival médiéval et fantastique du 18 au 20 juillet à Anzin-Saint-Aubin, une commune limitrophe d'Arras. On continue d'explorer la programmation du festival Armania.
On a à aujourd'hui entre 30 et 35 échoppes. D'inscrites au réel sur des belles, franchement des très très belles réalisations. On est sur de l'artisanat. Concrètement, le mot d'ordre sur le marché médiéval artisanal, on veut pas de produits achetés et revendus, on veut de la qualité, du savoir-faire artisanal, de la transmission, de la démonstration. Voilà, c'est vraiment ce qu'on va chercher en termes de qualité. Après, le terrain grand, on peut pousser, on va dire, jusqu'à 50 artisans, pas au-delà, puisqu'après, il faut quand même que nos amis visiteurs, qui seront en nombre, je l'espère, pourront déambuler.
Circuler, oui.
Tout à fait.
Puisque aujourd'hui, donc, le parc fait un petit chemin sur lequel nous allons placer à peu près pas mal de stands, qui va donc de l'entrée jusqu'au camp viking, composé et animé par les Nordiens. Voilà, une association qui a fait moult représentations et qui a un camp de 800 mètres carrés, si mes infos sont justes.
Oui, tes infos sont justes, effectivement, Julien. Donc, il y a 800 mètres carrés. Donc, en fait, on a nos amis les Nordiens qui vont pouvoir nous faire de la démonstration de tissage de laine, tout simplement. Ils vont nous faire du combat. Alors, on a vraiment envie d'axer le festival aussi pour les enfants. Donc, à savoir que nos amis les Nordiens vont faire de l'initiation aussi au combat pour les enfants. Et bien sûr, les enfants, ils vont réussir à avoir toute cette formation. Ils vont pouvoir mettre à défaut nos amis les Vikings.
Alors, pour ce festival, il faut des bénévoles. Parce que, comme tu l'as dit, on ne peut pas faire tout seul.
Non.
Et je crois que du coup, il y avait un petit appel aussi à bénévoles pour avoir des coups de main.
Tout à fait. Puisque là, mine de rien, on pense... Enfin, moi, j'ai beaucoup en souvenir à Trébatia, forcément. Puisque j'étais moi-même... je venais régulièrement, enfin tous les ans, quoi, je venais sur Atrébatia et vraiment avec beaucoup de plaisir à y venir. Et je me dis, mais si on a un jour l'influence qu'avait Atrébatia, il nous faut du monde quand même. Donc forcément, on fait appel au monde pour venir nous filer un coup de main, que ce soit, alors je ne vais pas dire dans l'orga, puisque là on est à deux mois, donc on est un petit peu raide en termes de besoins là-dessus, tout est carré, tout est planifié. Pour le coup, quasiment à la minute près, puisqu'on a quand même des animations quasi toutes les quarts d'heure, donc encore une fois, un programme vraiment riche. Et donc, on a besoin de gens, que ce soit pour s'assurer que tout va bien, ou pour déambuler, ou pour venir avec nous sur la parade. Enfin voilà, on a pas mal de propositions à faire vraiment. Et puis, tout le monde est le bienvenu. Bien sûr.
Et être bénévole, ça n'empêche pas de pouvoir profiter du festival en même temps.
Effectivement, ça n'empêche pas de pouvoir profiter du festival, en sachant que voilà, moi j'ai envie de pouvoir remercier aussi toutes les personnes qui viendraient aider, aider engagées. Je veux dire, en même temps, sur les trois jours, quelqu'un qui vient par exemple sur les trois jours, eh bien naturellement, on remercie la personne et puis on l'invite à venir voir par exemple notre dernier spectacle qui sera joué le dimanche soir.
Pour réserver, comment on fait ? Parce qu'il y a certains événements qui sont sur réservation quand même.
Alors, pour réserver, donc, ce sera sur Eloasso, Armenia, directement. Le marché médiéval, le camp viking, etc. Tout ça, c'est à 3 euros l'entrée. Donc, marché médiéval, spectacle de feu, jongle de feu, et initiation combat, la ferme pédagogique, voilà.
Au niveau de l'escape game, donc en fait on a un tarif qui comprend l'entrée également au parc. Donc comme ça au moins on est tranquille et puis même pour nous c'est plus rapide. Donc concrètement c'est 13 euros l'adulte et 9 euros l'enfant. En sachant que pour l'enfant concrètement on va dire à partir de 8-9 ans c'est jouable, l'enfant peut vraiment s'amuser. En dessous c'est pas forcément très adapté. Donc il peut accompagner, il peut vivre l'aventure, mais de là aller participer aux énigmes, etc., c'est pas encore la même approche.
Pour retrouver plus d'informations sur l'association, si on ne trouve pas le Eloasso tout de suite.
Alors, nous avons deux Facebook, donc le Facebook de l'événement, donc Facebook Armenia, et le Facebook de l'association, donc le Facebook Artois et moi.
Petite précision juste sur l'orthographe de l'Artois et moi.
Oui.
Parce que ça s'agit, oui, c'est à côté d'Arras, mais pour le coup, on parle de l'art. Donc, art, toi et moi, c'est A-R-T, plus loin T-O-I, plus loin E-M-O-I.
Oui.
Et pour l'écriture, l'orthographe de Armania, c'est A-R-M-A-N-I-A-H.
J'imagine qu'on peut venir déguisé aussi.
Oui.
Alors, déguisé, non.
Enfin, costumé. Oui.
Costumé, oui, bien sûr. Toutes les personnes costumées sont naturellement les bienvenues. On aura de la déambulation, de toute façon, sur le parc, naturellement. Et on appréciera d'autant plus la venue des fées, des elfes, des trolls, des orques. Allez savoir quelles créatures on va trouver demain. Petite précision au niveau horaire. Le 18, ouverture du public à partir de 16h. Donc jusque 20h après, on a la soirée, la légende qui sera jouée à partir de 21h30. On va vraiment attendre quand même l'arrivée de la tombée de la nuit, pour pouvoir vraiment profiter des jeux de lumière et autres. Donc voilà, donc on se dit 21h30 que tout le monde soit là présent et le temps de s'installer. Nous on ouvrira à ce moment-là vraiment les jeux pour 22h on va dire maximum quoi. Donc ça c'est important aussi à prendre en compte. Après les autres jours, les horaires
de 10h à 21h pour le parc et ensuite de 22h à minuit pour la partie concert ou la partie spectacle.
En sachant qu'on ouvrira un petit peu avant, de façon à permettre à nos visiteurs des grandes soirées de venir se restaurer aussi sur place à partir de 21h concrètement. Voilà, il y a une entrée, une sortie qui se fait de façon à ce que la jauge soit complète et puis au plus juste forcément pour ceux qui ont réservé aussi leur moment.
C'était un entretien avec Séverine Robert Brochard, présidente, et Julien Surfin, trésorier de l'association L'Art, Toi et Moi. Avec eux, on explorait la programmation de la deuxième édition du Festival Armania. Festival médiéval et fantastique organisé par l'association du vendredi 18 au dimanche 20 juillet à Anzin-Saint-Aubin, une commune limitrophe d'Arras. Une interview réalisée par Laura Becker pour Radio PFM.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Les 7, 8, 9 juin 2025, l'association Léo Lagrange vous invite à sa 15e édition du Festival Hénaud Belle Bretelle sur la place d'Erny dans le Valenciennois. Au programme des festivités, spectacle pour enfants le samedi après-midi, suivi d'une programmation rock. Le dimanche et le lundi, programmation variée, musette, rock, chansons françaises et festives, avec entre autres Les Désorientés, La Gapette, Les Petits-Fils de Janine. Festival gratuit et toujours non payant, restauration sur place, Renseignements sur bellebretelle.com.
Hey, young girl, I got a story to tell, and somebody told me that you listen well. It's not so long, I won't cut it short. It ends in the south and it starts in the north. A long time ago on a salty wave, I saw an old man standing in a cave. He had his arms out and he was calling me. He said he was the cowboy of the deep blue sea. Hopped up my board, said hello to him, presented myself with a big wide grin. He turned away, he said, follow me, I got something to show you, but it's in Dead Sea. So I stopped in my tracks and I told him to turn. All of a sudden my feet started to burn. He reached for my hand and I looked at him. We fell in the water and we started to swim. We must have swam for 40 days and nights. All I could think of were the northern lights. We arrived at the gates and we went in. Just as they closed, it all began. But that's where this all started for me, when the little old cowboy jumped back in the sea. Then came in a thousand smiling women, and I was wrecked after all that swimming. He turned and said, I will give you my name. In 100 years time you gotta do the same. Find a man with eyes of brown, long black curls from a seahorse town. So right there and then, I smiled to myself and a big naked woman came out of a shell. I asked her name and she said Venus, and she couldn't keep her eyes on mine. And that's where I learned my tricks of the trade, making women happy and getting laid. Drinking salty beer, fishy jelly pie, with a thousand women and just one guy. Yeah, just one guy. Me, just one guy. Just one guy. Just one guy.
Qu'est-ce qu'elle veut? Suis-je utile enfin à la société? Des questions, des soupçons, et l'humeur est altérée. Des rancunes, des trahisons, on s'énerve, on se court après, puis on se réconcilie. Et déjà c'est reparti. Pour un an, pour un mois. Allez donc prévoir cela.
Depuis 33 ans, 200 lycéens des Hauts-de-France participent à l'opération Histoire et mémoire de la Shoah au sein de leur établissement scolaire, en effectuant des recherches sur la déportation vécue dans la région, avec, en point d'orgue, une visite de deux jours au camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau en Pologne. Le fruit de leur travail a été exposé récemment à l'hôtel de région à Lille, où le jour de l'inauguration, ils ont rencontré et assisté à une conférence de Lili Léniel Rosenberg, survivante des camps de Ravensbrück et de Bergen-Belsen. Comme le rappelle Maddy Dorchy, conseillère régionale en charge de la mémoire, ces jeunes lycéens deviennent à leur tour des passeurs de mémoire.
Alors effectivement, là aujourd'hui, on va faire une restitution. Enfin, les jeunes, les lycéens vont faire une grande restitution auprès de leurs collègues. En fait, ils ont répondu par le biais de leur lycée à un appel à projet qui est lancé par la région en lien avec les rectorats, les académies de Lille et d'Amiens et le mémorial de la Shoah. Donc c'est un appel à projet pour travailler justement sur l'antisémitisme et ses notions de discrimination. Donc ils ont travaillé en première sur différentes questions. Bon, on voit, c'est les parcours d'habitants de chez eux, le parcours de familles qui ont été déportées. Et ensuite, en terminale, ils font ce déplacement à Auschwitz-Birkenau pour finaliser ce travail de mémoire qu'ils effectuent. Et l'idée aujourd'hui, c'est de se dire, bon, ils ont pu bénéficier de cette expérience et ils deviennent des ambassadeurs de mémoire et il est important qu'ils puissent aussi transmettre cette mémoire et tout ce qu'ils ont pu voir, l'horreur des camps justement et comment la haine de l'autre, ce que la haine de l'autre peut provoquer. Donc il est important qu'ils puissent le restituer auprès d'autres lycéens.
Ces passeurs de mémoire transmettent-ils le message ?
J'en suis intimement convaincue. Donc c'est un dispositif qui existe depuis 1992. En région Hauts-de-France, c'est un dispositif qui existe chaque année. On a voulu vraiment donner de l'importance, puisqu'avant c'était tous les deux ans. Là, on décide de le faire chaque année, parce qu'effectivement, il y a un message important. Vous savez, la première fois que j'ai fait le déplacement avec les jeunes, parce que je le fais à chaque fois, pour moi c'est très important de voir un peu comment ils s'imprègnent de tout cela. Et il y en a un qui est venu me dire en disant, mais madame, on est légitime maintenant pour réagir contre toutes les formes de discrimination. Ils sont profondément marqués par ce qu'ils découvrent, enfin ils comprennent ce que la haine de l'autre peut provoquer. Et ça, je crois que c'est un message qu'ils ont, qu'ils reçoivent et qu'ils transmettent régulièrement. Oui, effectivement.
Les Hauts-de-France ont été occupés par l'Allemagne nazie. Est-ce pour cela que les élèves sont un peu plus impliqués ?
Je pense que oui, nous sommes effectivement, comme vous le dites à juste titre, une région qui est très marquée par la mémoire et où il y a une forme de résilience très importante dans notre région. Et je crois qu'on peut vraiment être fiers des jeunes des Hauts-de-France parce qu'ils sont là, ils sont aussi présents dans toutes les commémorations, ça je tiens à le souligner. Ils sont là pour vraiment transmettre cette mémoire. C'est vraiment des ambassadeurs de la mémoire importants.
Y a-t-il encore une visibilité dans la région sur les événements qui se sont produits il y a maintenant plus de 80 ans ?
Je pense que si, on a quand même de la visibilité dessus, hein, puisque c'est des commémorations qui se font quand même chaque année, hein, auxquelles je participe et auxquelles les jeunes participent aussi. Bon, effectivement, on a des événements régionaux, mais ce qui est important, c'est vraiment le phénomène de masse et comment cette organisation dans ces camps de concentration, c'est vraiment une véritable organisation qui a amené à vouloir supprimer de la carte les juifs, mais aussi toutes les personnes différentes. Et c'est vraiment une extermination, un assassinat en masse qui a été provoqué. Et ça, c'est général. Donc, il n'y a pas plus en région Hauts-de-France. Je crois qu'ils comprennent l'importance du phénomène.
Comment les professeurs ont-ils incité les lycéens à s'impliquer dans les recherches historiques sur la déportation et la Shoah ? Professeur d'histoire-géographie au lycée Saint-Odile de Lambersart, Emmanuel Baquet explique.
En fait, j'ai un club d'histoire qui se tient tous les mardis de 17h à 18h. Et mes élèves, je les ai impliqués à partir de l'année dernière où je les ai fait travailler sur des archives pour reconstituer le parcours d'une famille. Et à partir de ces archives, ils ont écrit des textes. Ils ont reçu un enfant caché, qui a été caché entre 1942 et 1944, Georges Comar. Et avec l'interview, ils ont créé des podcasts qu'ils ont enregistrés.
Vous avez combien d'élèves qui ont participé à cette opération ?
Au total, j'ai 15 élèves qui ont participé à l'opération et 6 élèves qui sont partis avec moi à Auschwitz en novembre, 6 élèves de terminale.
Est-ce difficile d'impliquer des jeunes qui ont 15, 16, 17 ans, 18 ans dans une telle recherche ?
Pour ma part, c'était pas difficile parce qu'ils étaient motivés dès le départ, déjà. Et le fait d'avoir rencontré un enfant caché fait que l'histoire leur apparaissait beaucoup plus proche. Et lire les archives aussi, je pense que ça permet de rapprocher des événements anciens et de s'y intéresser.
Et pour vous, c'était aussi une partie de l'histoire qui vous intéresse ?
Oui, tout à fait. Moi, je suis trésorière d'une association Lille FIV 1942 qui travaille sur cette question.
Et qu'est-ce qui a donc motivé les élèves à participer pleinement à l'opération Histoire et mémoire de la Shoah ? Étudiante au lycée du pays de Condé, à Condé-sur-Lescaut, Jade et nous éclaire.
Parce qu'on voulait rendre hommage aux personnes du Valenciennois et aux personnes juives, justement, qui ont été assassinées durant cette période.
Alors, vous êtes allé en Pologne, au camp de Auschwitz-Birkenau. Qu'est-ce qui vous a marqué là-bas?
C'est vraiment le camp, l'entrée. Dès qu'on arrive, on sent un peu un mal-être et on sent la souffrance, justement, de ces personnes qui ont été là-bas.
Avant d'y aller, vous vous intéressez à cette partie de l'histoire?
Oui, c'est une partie qui m'intéressait beaucoup, tournée au niveau de la Seconde Guerre mondiale.
Vous continuez maintenant à travailler sur le sujet?
Oui, on continue toujours. On présente des expositions justement dans notre lycée. Et je continue toujours de m'intéresser. Par exemple, il y a des plaques de mémoire au niveau du Valenciennois. On y jette toujours un petit coup d'œil.
Maintenant, vous avez ce rôle de passeur de mémoire. Qu'est-ce que vous allez faire pour continuer à commémorer la mémoire des personnes déportées?
Je pense qu'on va continuer à faire des expositions et surtout si plus tard on a des enfants, petits-enfants, on continuera à leur faire passer cette mémoire.
Pour d'autres, ce sont des témoignages qui leur ont donné l'envie de s'engager dans l'étude de cette sombre période. Comme Jules De Jager, élève au lycée Maxence van der Merch à Roubaix.
Durant notre première année, on a étudié la vie de Lili Niel, donc Lili Rosenberg, à travers plusieurs archives, mais aussi des témoignages qu'elle a su nous montrer. Et ensuite, durant la deuxième année, on a continué en faisant une exposition et en allant du coup à Auschwitz-Birkenau. Et cela nous a permis de faire une exposition qu'on va présenter ici à la région, mais aussi à notre lycée.
Vous êtes allé en Pologne, vous pouvez me raconter un peu votre voyage et votre ressenti?
Alors au début, on a visité Cracovie, donc il faisait très froid, on ressentait vraiment les vraies conditions, c'est pour ça que j'étais content d'y aller en hiver. Et ensuite, on a du coup visité Auschwitz camp 1, donc c'était très spécial, c'était encore tout construit, c'était muséifié, donc on voyait beaucoup de choses, mais on se ressentait pas vraiment. Par contre, au niveau de Birkenau, à ce niveau-là, c'était vraiment spécial parce que on avait tout était démoli, il faisait froid, on mettait du temps et puis avec la fatigue tout ça, mais sinon c'était super. Et du coup, on ne se rendait pas forcément compte de ce qui s'était passé directement. Et c'est justement sur le retour que là, on en s'est dit, c'est vrai que tout ce qui s'est passé, on s'en rendait compte.
Est-ce que vous imaginez rencontrer de telles choses à Auschwitz?
Je m'imaginais, je m'étais préparé, mais je m'attendais pas à ce que ce soit autant. Par exemple, pour les cheveux, on m'avait prévenu qu'il y aurait des cheveux, mais quand j'ai vu vraiment le tas qu'il y avait, j'étais énormément surpris. Pareil pour tout ce qui est valises, chaussures. Et quand on se rend compte, et c'est pour ça justement après, que toutes ces chaussures représentaient une personne, c'est là où on se dit qu'il y avait vraiment, on parle vraiment de massacre et de génocide.
Alors quel sera votre rôle aujourd'hui?
Nous, on va vraiment essayer d'être des passeurs de mémoire et du coup d'expliquer à tout le monde. Donc j'ai déjà présenté à ma classe, à mes parents j'en parle, à toute ma famille, parce que c'est un vrai sujet de discussion intéressant. Et même des fois à mes amis pour vraiment débattre sur certains sujets et m'expliquer vraiment pourquoi il s'est passé ça et ce que nous on ressent.
Est-ce que vous avez changé après ça, après avoir vu Auschwitz?
Pas forcément, mais c'est vrai que, par exemple, on prend du recul sur Auschwitz-Birkenau, on sait ce qui s'est passé et on ne le sort pas aussi facilement qu'on pourrait le sortir avant. On comprend que les 1,5 million de personnes qui sont mortes là-bas, assassinées, étaient des personnes comme nous et vous. Et du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué à ressortir de tels noms.
Pour d'autres élèves encore, c'est le résultat d'une longue attente, d'une grande envie de devenir passeur de mémoire. C'est le cas de Mariam Bena J.I.D., lycéenne à Madeleine Michelis à Amiens.
Alors pour ma part, je connaissais ce projet il y a déjà très longtemps. On en avait parlé quand j'étais déjà au collège et je trouvais que c'était un projet qui était très intéressant puisque non seulement on apprend beaucoup de choses, mais en plus ça nous permet de devenir passeur de mémoire et donc de transmettre cette mémoire qui est très importante.
Et qu'a-t-elle retenu du voyage en Pologne?
Alors ce qui a été le plus marquant, c'était le fait que non seulement auparavant on avait appris beaucoup de choses, mais quand on est venu, c'est devenu très concret en fait. Tout ce qu'on avait vu, tout ce qu'on avait appris de par les témoignages et les œuvres, est devenu très concret quand on est venu sur le camp. On a vu que toute la haine qui avait été instaurée s'était concrétisée justement dans ces camps de la mort et c'était d'autant plus horrible. Donc c'est plutôt la globalité en fait, tout ce projet qu'on a établi qui est devenu très concret. au moment où on y est arrivé.
Puisque vous êtes devenu passeur de mémoire, quel sera ce rôle? Comment vous allez le développer?
Alors, non seulement au début, on a commencé normalement à en parler avec notre entourage, avec la famille. Et puis après, on est passé dans les classes au sein de notre établissement pour transmettre tout ce qu'on a vu lors de ce voyage. Et après, on a l'intention de faire un court-métrage pour justement synthétiser tout notre projet.
Que vous sentez un intérêt ?
Là, c'est un peu divisé. Il y a des jeunes qui sont très intéressés, justement, bien que ce soit loin. Et il y en a d'autres qui, justement, sont un peu désintéressés, qui mettent une certaine distance, alors qu'en réalité, c'est pas si loin, puisque, de manière générale, l'antisémitisme persiste. Et c'est justement un devoir d'avoir connaissance de ce qui s'est passé avant pour pouvoir lutter par la suite contre la haine et l'antisémitisme.
Vous dites que c'est un devoir de mémoire et puis que l'antisémitisme existe encore. Vous sentez aujourd'hui que l'histoire pourrait se répéter ?
Est-ce qu'on peut vraiment dire que l'histoire pourrait se répéter ? J'ose espérer que ce ne soit pas le cas. Mais si des gens ont acquéri une haine suffisante pour commettre de telles horreurs, si d'autres personnes ont été capables de faire ça, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui d'autres personnes ne soient pas capables de le faire à nouveau. Donc c'est pour ça qu'on doit avoir connaissance de ce qui s'est passé avant pour pouvoir se dire qu'il y a un schéma qui semble être similaire et donc aujourd'hui il faudrait avoir les connaissances pour reconnaître la montée de la haine, de l'antisémitisme et éviter qu'éventuellement ça puisse se reproduire.
Et puis, il y a aussi des élèves ayant la volonté de réaliser un documentaire audiovisuel. C'est donc avec une caméra qu'Excel Curno, du lycée Albert Châtelet de Saint-Paul-sur-Tarnoise, s'est rendu en Pologne, avec une idée bien en tête et une grande motivation.
Alors, tout d'abord, c'est le fait justement de porter la mémoire de la Shoah. Pour nous, c'est important pour transmettre tout ce qui s'est déroulé là-bas. Nous, notre rôle, en fait, c'était d'utiliser par le documentaire où c'est plus utile pour transmettre la mémoire.
Vous êtes allé en Pologne, vous pouvez me raconter un peu votre voyage ?
Alors, c'était les deux jours les plus intenses de ma vie. Franchement, pour moi, c'était intense émotionnellement et aussi au niveau du travail à apporter parce que on était venus avec des caméras et des micros pour qu'on puisse... du coup faire les films, les plans et le son. Et suivre en même temps le groupe, c'était intense, mais c'était vraiment impressionnant aussi de voir tous les entrées, toutes les expositions, c'était impressionnant.
Vous attendez une telle horreur ?
Alors oui, forcément, on se fait une petite idée, mais je pense pas qu'on peut s'y attendre vraiment à ce qu'on voit en fait là-bas. C'est quelque chose d'inimaginable. Une fois qu'on l'a vu, là on s'en rend compte, mais avant, c'est pas possible. On peut pas se rendre compte.
Vous avez tourné un documentaire, comment vous allez le diffuser ?
Alors là, déjà, on a été le projeter au sein de notre lycée et aussi à notre cinéma local au Régency à Saint-Paul-sur-Tarnoise. Sinon, on souhaiterait aussi intervenir dans des festivals de courts-métrages et nous avons aussi comme idée de peut-être aller à l'international avec des sous-titres en anglais. Et après, on verra par la suite quelles projections nous allons faire avec ce documentaire.
L'après-midi de l'inauguration de cette exposition, les 200 lycéens des Hauts-de-France ont rencontré Lili Léniel Rosenberg, arrêtée avec sa famille le 27 octobre 1943 et déportée à Ravensbrück, une rencontre ayant décuplé leur motivation d'être des passeurs de mémoire. C'était un reportage de Thierry Tempé pour Radio Plus.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Vous êtes sur la radio des étudiants ?
Oui, mais pas que.
Radio Campus 106,6 FM, sur le DAB+, ou sur www.campuslille.com.
Depuis hier, à 22h, c'est la troisième fois que je mets mes chaussettes sales. Dans le beurre et le beurre, dans les cabinets, je mange de la mousse à raser. Je mets mes lunettes dans le frigo et j'ai ce sourire d'attardé quand je descends dans le métro. Mais il me plaît pas, il me plaît pas, c'est vraiment pas possible qu'il me plaise. Oui, mais voilà, ça fait deux fois que je m'assois à côté de ma chaise. Non, il me plaît pas, c'est vraiment pas possible qu'il me plaise. Oui, mais voilà, ça fait trois fois que je vais au boulot. En charentaise, j'ai appelé mon supérieur et je lui ai dit « Mamie, je t'aime, je fais des bisous au radiateur en lui récitant des poèmes. Putain, qu'est-ce qu'il m'a fait ce mec ? C'est pas possible, il peut pas me plaire. Oui, mais voilà, ça fait trois fois que je propose de l'herbe à ma mère. Une fille me demande une cigarette et moi, je lui file 40 euros. C'est pas possible d'être aussi bête à cause d'un vulgaire petit mot. D'accord, je le vois demain soir, mais c'est pas une raison pour mettre mon tube de mascara noir à la place de mon thermomètre. Je regarde les infos, la télé, je trouve ça trop poétique. Je chante en me retenant de pleurer toute la BO de Titanic. Je... Yeah, fin. Wherever you are, I believe that my heart. Ah non, mais ils sont amoureux et le bateau, à la fin, il coule. Moi, ça me... D'accord, d'accord, je le vois dans deux heures, mais c'est déjà la huitième fois que je rappelle mon supérieur pour lui dire que c'était pas moi. Il faut que je me calme, il faut que je sourie, et faudra surtout pas que je craque, mais il arrive. Je pousse un cri et je fous la tête dans mon sac. Ne m'embrasse pas, ne m'embrasse pas. Si jamais tu m'embrasses, j'explose. Ah bah non. Je rentre chez moi, normal, sous hypnose. Je... Oh, quel joli nouveau matin. Mais que fait le chat dans le frigo? Bah quoi, le dentifrice sur du pain? C'est nourrissant et rigolo. Oui, je sais bien qu'il ne faut pas se sécher les cheveux au mixeur, mais en même temps, si t'essayes pas, bah, tu peux pas savoir que c'est l'horreur. Mais il me plaît pas, c'est vraiment pas possible qu'il me plaise. Je suis pas ce genre de nana qui devient complètement niaise. Oh, il a des yeux bleus, un sourire incroyable. S'il me plaît pas, s'il me plaît pas, pourquoi j'en parle à mon banquier et à ma mère et à mon chat, au lampadaire et au postier et au contrôleur des impôts et au type de la RATP? Si vous saviez comme il est beau, si vous saviez comme il me plaît, oh, comme il me plaît, oh, oh. Pam pala pala papa, pam pala pala pam pam pala, pam pala. Pam para param pam pam param papam papam papam.
Передос, не помогут тебе крики сос.
Хуй сос,
ты любишь.